Bac FM, il est 19h, votre rendez-vous info victime, je suis en compagnie de Jérôme Moreau, on est parti.
Je tenais à vous témoigner de ma confiance et saluer votre engagement au quotidien aux côtés des victimes.
Plus qu'un devoir, pour nous, ce combat vers leur liberté est une exigence qui doit contribuer à se débarrasser des chaînes entravant les traumatismes subis et à restaurer la dignité des victimes.
La compagnie interdit la solitude.
Bonjour Jérôme Moreau.
Bonjour.
Vous êtes président de France Victimes 58, vice-président de France Victimes et vice-président européen. Également porte-parole de la Fédération France Victimes. Deuxième numéro de notre rendez-vous mensuel Info Victimes. Le premier était consacré à la cyberdélinquance. Un entretien que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Bac FM, rubrique Info Victimes. 122 femmes tuées par les coups de leur mari conjoint ou leur ex-mari conjoint en 2021. C'est 20% de plus qu'en 2020. C'est 20 de plus, c'est 20 de trop. C'est avant tout 122 de trop, bien évidemment. Quel est votre regard sur ce nombre et sur cette augmentation?
Alors, les chiffres, bien évidemment, aussi, année en année, et on revient malheureusement aux chiffres de 2020, où en 2021, on avait eu l'espoir que les chiffres baissent et que cette baisse soit continue. Malheureusement, ils sont en hausse. Alors, il faut voir sur le long terme ce que ça donnera, parce qu'on commente chiffre après
année par année,
voilà, et année par année.
Le vrai résultat se fait
sur une dizaine d'années. Ouais, il faut regarder les choses comme cela et puis voir si les politiques publiques font leur office, portent leurs fruits, ce que je pense qui se réalisera à terme. Mais en tout état de cause, effectivement, on a beaucoup trop de femmes qui sont tuées. C'est une femme tous les trois jours. Les enfants, on en a 36 ou 37, donc ça fait beaucoup. Donc on voit bien que on est dans le cadre quand même d'une société extrêmement violente dans la famille et qui pose des interrogations et qui pose deux interrogations majeures quand même. C'est que tout d'abord, la moitié de ces femmes n'ont pas déposé plainte et n'étaient pas connues de tout un tas de services ou structures pouvant leur porter assistance et secours. Et deuxièmement, lorsqu'elles ont déposé plainte, on voit bien quand même qu'on cale aussi sur le fait de pouvoir les protéger efficacement. Donc voilà, il faut analyser, il faut comprendre, il faut trouver de nouveaux axes de protection et d'accompagnement.
Justement, on va revenir sur la difficulté des fois que rencontrent certaines victimes dans le dépôt de plainte. Juste avant, j'aimerais revenir, le confinement, est-ce qu'il est en cause aussi dans cette augmentation de femmes battues, le fait de se retrouver aussi enfermées avec un mari, un conjoint qui est violent et ne pas pouvoir se défaire aussi de cette personne-là un instant dans la journée, un moment
Alors,
dans la journée?
Alors, le confinement a été dangereux pour les femmes, puisqu'on a mis dans une même nasse, j'ai envie de dire, le rapace et la proie. Donc effectivement, que le confinement a réalisé, mais malgré tout, quoi, j'ai envie de dire, une augmentation des violences.
Est-ce qu'il aurait peut-être fallu mettre un dispositif à ce moment-là, pendant le confinement? Alors c'est facile de le dire maintenant, mais...
C'est compliqué, on était en période pandémique, voilà. La seule chose qu'on sait, c'est quand même que les gens n'avaient au contraire pas de sas de sortie, qui restait en fin de compte enfermé, et que les choses aidantes dans l'enfermement, on sait que l'augmentation de la violence, de l'agressivité le fait tout autant. Donc c'est extrêmement préoccupant. Mais effectivement, le confinement n'a pas aidé. Et en plus, comme vous le dites très bien, nous n'avions pas de sortie, mais parce qu'elle n'existait pas, tout simplement. Et je pense que si nous repartions sur des politiques publiques sanitaires commandées, encore une fois, par la pandémie, et je n'y porte aucun jugement, si ce n'est qu'il faut faire confiance aux personnes en charge de cet état d'urgence, effectivement, c'est très difficile d'aller chercher les victimes pour les replacer ailleurs. Et puis, d'abord, on n'avait pas de dispositif, on n'avait pas de solution. Et puis surtout, on ne savait pas que les violences allaient éclater. Et voilà, puisqu'on a eu tout un tas de victimes nouvelles quand même.
Quoi des victimes nouvelles?
Qui n'avaient jamais déposé plainte, qui n'avaient jamais connu cela.
Qui n'étaient pas connus des services de police dans le dépôt d'une plainte.
Et qui n'avaient jamais connu de violence au sein de leur couple avant le confinement. Donc voilà, c'est quand même une interrogation aussi sur laquelle il faut trouver des solutions. En tout cas, on voit bien qu'au sortir du confinement, on a une augmentation du nombre de plaintes, ce qui veut dire que la parole se libère. On sait quand même que les affaires de violence, quelles qu'elles soient, avec des témoignages dans les médias, ont aussi aidé à libérer la violence. Mais voilà, aujourd'hui, on se heurte quand même à une espèce de plafond de verre qu'il va falloir casser urgemment.
Pour revenir sur certains chiffres qui représentent beaucoup de choses, par an, c'est presque 225 000 femmes qui sont victimes de violences sexuelles physiques et ou psychologiques, car ça va parfois et même souvent ensemble. Seulement 60 000 plaintes sont déposées et le résultat, c'est 17 000 hommes qui sont condamnés. On est loin des 225 000 évoqués au début. Il y a un réel problème juridique dans la déposition de plaintes, mais également un problème à parler, à expliquer ce que ces femmes ont vécu ou vivent pour la plupart. Avant d'avoir votre avis sur ce sujet, Jérôme Moreau, j'aimerais qu'on écoute Tiffany. Elle a été victime de violences par son ex-conjoint et elle explique la difficulté à porter plainte. Vous allez réagir juste après dessus.
Il m'a arraché mes vêtements pour me jeter nue dans la rue. Ou une fois, il m'a déjà traînée par les cheveux de mon garage dans l'ancienne maison jusqu'à la maison. Ce jour-là, il m'a laissée, après m'avoir étranglée pendant plusieurs minutes, il m'a laissée sur le sol. J'ai suffoqué. Et je suis allée au bureau de police pour voir ce que je pouvais faire pour que ça s'arrête. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'aie des preuves et que je pouvais déposer une main courante contre X. Je suis allée là-bas, la dame qui m'a reçue au bureau de police, elle m'a dit qu'il fallait pas que je porte plainte par jalousie parce que c'était un ex et qu'il s'était remis avec son épouse. De mon côté, je suis pas arrivée en disant « Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai été violée, j'ai été séquestrée, il m'a battue ». Parce que je leur faisais pas confiance, parce qu'il y avait 15 personnes des fois derrière moi qui écoutaient, parce qu'il faut dire haut et fort son identité, il n'y a aucune confidentialité. Et j'avais honte de dire ce qui m'était arrivé, honte que ce soit arrivé à moi, honte d'être encore là-dedans, de pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là.
J'avais honte de pas m'en être sortie toute seule, c'est les mots de Tiffany qui, quand elle arrive au commissariat, on lui dit « Madame, il ne faut pas porter plainte par jalousie ». Est-ce que c'est aussi ce qui explique les seulement 60 000 plaintes déposées et les seulement 17 000 hommes qui sont condamnés ? Est-ce qu'il y a un vrai manque de compatie, de compassion ?
Alors, d'abord sur les affaires individuelles, vous comprenez que je ne peux pas m'exprimer et je trouve que ça serait extrêmement contre-productif. En revanche, il faut écouter les témoignages et effectivement le ressenti des personnes qui déposent plainte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des personnes qui travaillent là-bas. On a quand même une convention avec la préfecture et le conseil départemental. Nous avons un travailleur social dans le commissariat et les gendarmeries de la Nièvre. Nos juristes interviennent régulièrement au commissariat, c'est-à-dire toutes les semaines. Aujourd'hui, on a des dispositifs d'accompagnement, notamment avec le chien d'accompagnement judiciaire. Donc on a quand même des dispositifs, voilà. Après, aujourd'hui, les gens sont formés, aujourd'hui, les gens écoutent, on a une brigade spécifique dans le département pour cela. Donc, au sein du commissariat, ils ont également une unité spécifique sur les violences intrafamiliales. On a, au sein du parquet de Nevers, une substitut en charge spécifiquement de ces questions. Après, on trouvera toujours des personnes qui, logiquement, vont vivre extrêmement mal le dépôt de plainte parce qu'il faut répéter les choses. Effectivement, il faut aller dans des détails qui sont extrêmement éprouvants à dire, d'abord.
Il y a aussi quelque chose, moi, qui me choque quand j'écoute le témoignage de Tiffany, et vous allez peut-être être d'accord, je sais pas, c'est quand elle dit « il faut dévoiler son identité ». On n'est pas anonyme.
Ah non.
Quand on porte plainte.
Mais non, c'est le code de procédure pénale depuis 2 siècles et demi. Et une plainte doit être identifiée, c'est tout à fait normal. Parce que s'il y a besoin de protéger, d'abord, parce que aujourd'hui on protège les gens quand même avec des dispositifs. Et donc, pour protéger les gens, il faut donner son identité. Et alors après, que les auteurs, qu'il y ait des mécanismes d'anonymat ensuite. Voilà, mais effectivement, il faut donner votre identité, il faut décliner votre identité. Pour cela, il faut être identifié. Ça fait partie de la loi et cette loi, elle ne doit surtout pas être mise en cause. Il faut qu'on puisse identifier les personnes pour les protéger à un moment donné et pour savoir.
C'est
aussi
avant tout pour aider les victimes, évidemment.
Oui, oui. Et puis bon, ça fait partie du jeu. Je veux dire, on dépose plainte. Il faut que les victimes comprennent qu'il y a des procédures derrière et que il faut qu'elles soient identifiées. Mais après, il faut savoir comment elles sont identifiées. Et je pense que ce témoignage, c'est qu'elle devait donner son identité devant tout le monde dans la salle d'attente, où là, effectivement, c'est très compliqué et qu'il faut repenser à une architecture immobilière, justement, pour permettre cet anonymat.
Et une approche peut-être aussi psychologique envers ces victimes qui ont...
Oui, je crois qu'elle y est quand même. Enfin, moi, je veux défendre les forces de l'ordre et de gendarmerie au moment des plaintes. Et effectivement, pour encore une fois, moi, je ne juge pas les victimes parce que, encore une fois, de répéter, on sait que c'est compliqué. D'avoir des preuves, on sait que c'est effectivement compliqué. Déposer des mains courantes, on dit quelles preuves vous avez, est-ce que vous avez des certificats médicaux, est-ce que vous avez des photos. C'est vrai que c'est parfois inentendable pour des personnes qui sont des victimes et qui viennent de subir un traumatisme. Il faut qu'elle soit rompue aux vicissitudes de la procédure pénale et du code pénal. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans des mécanismes d'aider les victimes le plus possible. Je parlais du chien d'accompagnement judiciaire pour les enfants. On pourrait parler aussi du fait de pouvoir prendre les plaintes à l'hôpital. On se pose la question de savoir si les policiers peuvent venir ou les gendarmes peuvent venir dans les associations. Donc il faut trouver des mécanismes pour que ce soit le plus apaisé possible et pour que ça soit le plus serein possible. Après, effectivement, elles vont passer par des phases d'expertise, elles vont passer par des phases d'enquête, les victimes, et c'est toujours très difficile de répéter, et avec des questions qui peuvent apparaître, on vous remet en cause, alors que c'est simplement, encore une fois, les nécessités qui demandent. Parce que vous savez, après, à l'audience, c'est un combat. Et lorsque les questions sont mal posées, lorsque les questions peuvent être orientées, l'avocat de la défense, il saute dessus et il remet en cause. Donc il faut aussi que les procédures soient blindées et qu'elles soient infaillibles et intangibles. Mais encore une fois, ce moment, il est douloureux pour les victimes et cela, c'est effectivement quelque chose qui est problématique pour nous parce que, encore une fois, elles sont victimes, elles ont besoin d'apaisement et non d'insécurité et non besoin d'avoir ce sentiment qui peut être dévoyé, mais en tout cas qui est réel, d'être remis en cause.
Justement, depuis tout à l'heure, vous parlez de dispositifs qui sont possibles à l'avenir, qui sont en réflexion, mais également de dispositifs qui sont à l'heure actuelle à la disposition des victimes. Quel est le rôle de France Victimes? Comment vous accompagnez les victimes autant dans la démarche juridique que dans la reconstruction derrière? On sait qu'aussi il y a une très grosse démarche de reconstruction, c'est pas facile, c'est très compliqué. Comment France Victimes accompagne ces victimes dans...
Alors, on accompagne les victimes du début des faits, j'ai envie de dire de la commission des faits jusqu'à la fin, procès et après procès compris, avec une équipe pluridisciplinaire, psychologues, juristes, travailleurs sociaux, accompagnants, accueillants. Et puis, l'idée, c'est d'analyser les situations, de regarder quelle est la dangerosité de l'auteur et éventuellement de le signaler au procureur, de faire ce qu'on appelle une évaluation de la situation de la victime, de commander un certain nombre de dispositifs de protection, que ce soit des alarmes portatives, que ce soit des boutons d'alerte via les téléphones. Ça peut aller par la mise en place des téléphones grave danger, où là, vous avez une plateforme 24 heures sur 24 qui peut répondre en cas de danger immédiat.
Et il y a une augmentation de téléphones grave danger qui a été mise à disposition récemment.
Tout à fait. On n'est pas contingenté. Enfin, c'est là. Encore une fois, c'est le procureur qui décide si oui ou non il y aura un octroi, mais c'est nous qui faisons les évaluations et qui les demandons. Et puis, ça peut aller jusqu'à la mise en place des bracelets anti-rapprochement où l'auteur a un bracelet, la victime a un dispositif d'alerte et quand il rentre dans un périmètre suffisamment espacé, ça déclenche l'alerte.
C'est le dispositif max là de...
Pour l'instant, on n'a pas d'autre. Ouais. Le plus puissant et effectivement qui fait que la victime est effectivement protégée. Enfin, ce que je veux dire, moi, c'est comme sur le bracelet anti-rapprochement où on a quand même peu de recul, mais en tout cas, on en a quand même un petit peu, ou sur le téléphone grave danger, c'est des choses qui fonctionnent quand même et qui fonctionnent extrêmement bien. On a quand même des succès où les forces de police interviennent très rapidement et sauvent les victimes.
Avant tous ces outils qui sont mis à disposition, il y a soutien psychologique et social. Est-ce que c'est le travail le plus important avant de mettre en place et mettre à disposition des outils comme ce que vous venez de dire.
Le travail le plus immédiat, c'est de sécuriser la victime, c'est de la protéger. Donc c'est soit l'hospitaliser si elle est trop tuméfiée, si elle a trop de séquelles, de prendre les ordonnances d'interdiction de contact, parce que là il y a une nécessité, et après c'est une infraction pénale, donc l'auteur va en prison. C'est parfois pour le procureur de les passer en comparution immédiate et de les incarcérer. Voilà, l'urgence c'est quand même de protéger une personne, physiquement.
De la mettre en sécurité avant, de la rassurer, de lui apporter un accompagnement.
Et après l'accompagnement psychologique se fait en parallèle, mais l'immédiateté, vous parliez des 122 mortes, c'est quand même de protéger les gens physiquement. Et après, effectivement, le travail s'engage avec les psychologues, avec les travailleurs sociaux. Ça peut être concomitant, mais moi, Mon inquiétude, c'est quand même de redouter que dans la Nièvre, on ait un meurtre.
Il y a un outil qui s'appelle Mémo de vie. Mmh. Comment il rentre en charge? Comment il rentre en jeu aussi dans cette prise en charge?
Alors, Mémo de vie n'est pas un outil de prise en charge en tant que tel. C'est un outil numérique. Donc, vous tapez Mémo de vie. Hein, Mémo M-O, plus loin 2, plus loin vie. Et ça va vous ouvrir une page web. Et là, vous aurez un certain nombre de possibilités pour enregistrer des preuves, pour dire ce qui s'est passé tel ou tel jour dans votre vie. Alors ça peut être un jour où tout va bien et le lendemain vous êtes frappé, vous êtes insulté, vous avez du harcèlement sur votre téléphone portable, voilà. Donc vous allez décrire et au bout d'un moment on pourra imprimer tout cela et ça servira de preuve à l'audience. Ce qui nous manque c'est des récits souvent, ce qui nous manque c'est des jours identifiés. Donc Mémo de vie est capable de faire cela, vous avez un agenda où vous tenez à jour ce qui se passe dans votre couple et vous pouvez dire et décrire très précisément ce qui se fait. Après, vous avez une boîte où vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez, des photos, des expertises médicales, des certificats.
C'est un coffre-fort
numérique.
Numérique. Ouais.
Et puis, toutes vos attestations, sécurité sociale, CAF, banque, ce que vous voulez.
Jérôme Moreau, elles en sont où les propositions que vous aviez faites au gouvernement? Alors, nominativement à Marlène Schiappa pour
on participer. Avance petit à petit sur le Grenelle. Aujourd'hui, on a quand même une généralisation de l'évaluation victime. On a quand même des téléphones grave danger. On a des bracelets anti-rapprochement. Donc, les choses avancent. Sans doute pas aussi rapidement qu'on le voudrait et de manière aussi objective. Mais en tout état de cause, on voit que plus on avance, plus on a quand même des droits qui viennent protéger. Aujourd'hui, je crois qu'on va en parler, les enfants sont considérés comme des victimes. Donc là aussi, c'est quand même un combat qu'on a gagné. Je rappelle que depuis 2002, France Victime demandait que les enfants qui soient témoins ou qui voient les violences au sein du couple soient considérés comme des victimes.
Et il est considéré comme victime.
Aujourd'hui, les circulaires de ouais. Nicole Belloubet, oui, considèrent tout cela. Et ça peut même aller jusqu'à la désignation d'un administrateur ad hoc, c'est-à-dire pour les besoins du procès, France Victime pourra représenter sur ordonnance du magistrat eh bien, les enfants. Donc les choses avancent. Il nous manque quand même une unité médico-légale, enfin médico-judiciaire, on va pas parler de la médecine des morts, mais en tout cas une unité médico-judiciaire, donc la médecine légale du vivant par département. Dans la Nièvre, on n'a pas assez de médecins légistes, on le sait, donc voilà, il reste encore tout ce volet-là et ce parcours de la victime. Et puis il manque quand même, j'ai envie de dire, certainement une prise en charge des auteurs beaucoup plus importante, mais ça c'est, voilà.
Est-ce que dans l'aide aux victimes, alors vous votre rôle c'est d'aider les victimes, d'où le nom France Victime, mais est-ce qu'il faut aussi aider les auteurs? C'est un sujet qui peut paraître délicat pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en dehors aussi de ce sujet ou qui nous écoutent sans vraiment être impliqués dans ce sujet-là, mais est-ce qu'il faut aider les auteurs de violences?
Oui, bien sûr, depuis tout temps on essaie de réinsérer les auteurs. La difficulté, c'est qu'on a pris conscience que sur les violences conjugales, il y avait une massification des affaires et qu'on avait beaucoup d'auteurs condamnés. Alors, il faut que les auteurs soient accessibles à cela et qu'ils veuillent subir un suivi psychologique, un suivi sur le plan psychiatrique éventuellement, et puis qu'ils acceptent leur culpabilité. Donc, c'est la première chose, c'est leur faire comprendre. Et puis après, effectivement, il faut les accompagner. Et l'un des intérêts nouveaux, c'est la justice restaurative, et c'est de faire rencontrer des auteurs et des victimes, et qu'ils puissent se parler, et que les auteurs puissent prendre conscience de l'impact qu'ils produisent sur leurs victimes, et des conséquences de leur acte. Et ça, seules des victimes peuvent le faire. Et des victimes, c'est important parce que il faut aussi qu'elles entendent, de la part des auteurs, qu'elles ne sont coupables de rien. Le témoignage de Tiffany, c'était « j'avais honte ». Et pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'y arrive pas toute seule et tout ça? Justement, des auteurs bien préparés, des auteurs qui sont convaincus qu'en fin de compte, qu'ils sont coupables de tout et que la victime n'a pas contribué en fin de compte à sa propre situation est extrêmement important. Et c'est encore plus puissant pour leur restauration lorsque c'est des auteurs qui le disent. C'est la même chose pour le viol. On pourra bien leur dire, vous êtes coupable de rien, vous n'avez pas à avoir honte. Les jugements pourront bien poser les actes les plus importants et les magistrats pourront bien condamner de manière extrêmement importante les auteurs de viol. Si un auteur ne dit pas à la barre et si une victime n'entend pas mais vous n'êtes coupable de rien de la part de l'auteur même ou d'autres auteurs, on sait que ça va être très compliqué à se reconstruire.
J'aimerais finir avec un dernier point, c'est les femmes victimes de violences, donc c'est le sujet de cet entretien depuis tout à l'heure, mais il y a d'autres victimes parfois, on en parlait tout à l'heure, dans ces situations-là, c'est les enfants. C'est d'ailleurs une des propositions que vous avez faites, qui est la protection des enfants, qui a donné réussite, donc évaluer systématiquement l'impact des violences conjugales sur l'enfant exposé à ces situations et renforcer les désignations d'administrateurs ad hoc, on en parlait tout à l'heure. Comment France Victimes accompagne les enfants? Est-ce que là aussi, il y a un soutien psychologique, il y a un soutien social?
Alors, on parlait des femmes victimes de violences, on a beaucoup parlé des violences conjugales, on a parlé un peu des victimes de viol. Il y a d'autres situations où les femmes sont victimes de violences, on n'a pas parlé de l'excision, par exemple. Il faut savoir qu'il y a quand même une pluralité de violences à caractère sexuel et sexiste qui existent à l'encontre des femmes. Sur les situations des enfants proprement dit, et effectivement, on peut parler des enfants qui sont exposés aux violences conjugales, alors exposés, témoins, enfin peu importe, on va pas faire de la sémantique, mais en tout cas, des enfants qui vivent dans un climat de violence, effectivement, il faut les accompagner. Moi, je crois que c'est l'un des défis aujourd'hui. Et si on arrive, en fin de compte, à accompagner les enfants et à faire en sorte que ils puissent accepter ce qui s'est passé et qu'ils puissent se restaurer, je pense qu'on aura résolu quand même une partie des violences dans les 15-20 prochaines années. Appelle la prévention.
Est-ce que l'objectif, c'est qu'il ne réitère pas aussi ce qu'il a vu au sein du couple de ses parents, en fait?
Oui, c'est ce que je vous explique, et c'est la prévention. Et je crois que c'est un défi majeur. Mais il faut bien comprendre qu'on va, on commence... On en verra les résultats dans 15-20 ans, mais si on commence jamais, de toute façon, on n'en verra jamais les résultats. Et puis de l'autre côté, il faut leur reconnaître les droits, il faut leur reconnaître ce statut de victime. Donc il faut que la justice dise, voilà, vous avez été exposé, mais vous êtes victime au même titre que votre maman ou que votre papa aussi, parce que voilà, des fois, on a quand même aussi des victimes de violence de la part des femmes.
Oui, bien sûr, il faut dire, il faut quand même le
préciser. Et puis il y a des couples de même sexe, voilà, donc...
Il y a des hommes qui sont aussi victimes de violence, ça représente... Une minorité, évidemment, sur les violences au sein des couples, mais ça existe aussi également.
Aujourd'hui, on est sur la violence faite aux femmes, donc voilà, mais je voulais le souligner. Et l'idée, c'est quand même d'accompagner ces enfants, alors pour qu'ils ne fassent pas ce qu'on appelle un peu des mécanismes de transfert, c'est-à-dire soit qu'ils soient auteurs, soit qu'ils soient victimes. Donc, c'est extrêmement important de casser ce schéma et de faire en sorte qu'ils soient accompagnés. Et donc, ça nécessite, alors là, pour le coup, de la part de France Victimes, de les accompagner au procès et de faire reconnaître leurs droits. Et puis après, prendra le relais, la protection de l'enfance, qui devra les accompagner et qui devra faire en sorte de mettre en place des psychologues, des éducateurs, enfin voilà, tout ce qu'il y a besoin pour étayer ces enfants et faire en sorte qu'ils se sortent de cette spirale et qu'ils puissent l'effacer, quoi.
Merci Jérôme Moreau.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau numéro d'Info Victime. Prochain rendez-vous jeudi 24 novembre avec comme thème les cold cases.
Je tenais à vous témoigner de ma confiance et saluer votre engagement au quotidien aux côtés des victimes.
Plus qu'un devoir, pour nous, ce combat vers leur liberté est une exigence qui doit contribuer à se débarrasser des chaînes entravant les traumatismes subis et à restaurer la dignité des victimes.
La compagnie interdit la solitude.